Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. En novembre dernier, 7 journalistes issus de 6 pays de l'Union européenne étaient invités par la délégation de l'Union européenne en Palestine afin d'y constater divers aspects des soutiens apportés à l'autorité palestinienne et approcher la situation des Palestiniens dans ce territoire extraordinairement morcelé, la Cisjordanie étant depuis les accords d'Oslo divisé en 3 zones. Interview réalisée sur place et commentaires d'un grand témoin en la personne de Sylvain Sipel. Sylvain Sipel, vous êtes journaliste spécialisé des questions internationales, ancien membre de la rédaction en chef du Monde, collaborateur d'Orient 21 et auteur de plusieurs ouvrages sur les États-Unis et pour ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse aux éditions La Découverte, et vous préparez un nouvel ouvrage qui fera suite à Ces Emmurés, parution à venir. Sylvain Sipel, bonjour.
Bonjour.
L'écart de développement économique entre Israël et la Cisjordanie est un aspect frappant pour tout visiteur qui se rend dans ce pays riverain de la Méditerranée. Les étrangers arrivent à Tel Aviv et traversent des zones à la végétation luxuriante et dégagée jusqu'à un point de contrôle à l'entrée de la Cisjordanie où subitement le paysage se transforme, fait de barbelés ou de tronçons de murs. Encadrant la route, la végétation s'est appauvrie, la terre est sèche. Bienvenue en Cisjordanie où le manque d'eau est criant, Israël contrôlant toutes les nappes phréatiques. Depuis les accords d'Oslo, la Cisjordanie est divisée en 3 zones. Je les rappelle, la zone A qui regroupe environ 20% du territoire, les grandes villes et leur très proche environnement urbain et 50% de la population. L'autorité palestinienne est supposée bénéficier d'un pouvoir civil et sécuritaire complet. La réalité est que depuis 2001 et la deuxième intifada, les forces israéliennes y entrent comme bon leur semble et imposent leurs lois. Je parle sous votre contrôle, Sylvain Sipel. La zone B, 20% du territoire, 41% de la population, bourgade moyenne et petite, l'autorité palestinienne y détient le contrôle civil, l'armée israélienne le contrôle sécuritaire. Enfin, la zone C, 60% du territoire, 5% de la population palestinienne. Israël y détient un contrôle total, militaire et civil. Importance de taille, les zones A et B sont toutes entourées de la zone C et on ne peut passer d'une partie des zones A ou B à une autre sans passer par un contrôle militaire israélien, les fameux checkpoints, des checkpoints qui pour leur très grande majorité, 94%, séparent non pas une zone israélienne d'une autre zone palestinienne mais deux territoires palestiniens, c'est dire les entraves à la liberté de circulation. Cette question des zones A, B et C...
Oui, il y a une chose qui me paraît très importante d'ajouter, c'est qu'on peut penser de ce que vous dites qu'il y a 3 zones, une zone A, une zone B, une zone C. Mmh. Alors, c'est pas ça. Il y a un nombre incalculable de zones, peut-être quasiment des centaines, dont les unes sont A, les unes sont B, les unes sont C. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a 3 zones séparées.
Non, c'est plus facile à expliquer avec une carte, mais
non,
en radio.
Voilà, mais c'est en fait, ce sont des confettis. Et on passe, sans le savoir, de zone A en zone B, tous les 2, 3 ou 5 kilomètres. Et donc, les gens sont séparés les uns des autres dans des zones qui sont de nature juridique, sur le plan de la loi israélienne, mais de nature juridique qui n'ont rien à voir. Donc, vous pouvez habiter à tel endroit, ne pas avoir le droit d'aller à 3 kilomètres. Par exemple, vous avez votre champ qui est à 1 kilomètre devant votre maison, mais vous devez faire un détour de 30 kilomètres pour éviter de passer par une zone habitée par des colons, etc., etc.
Alors, cette question des zones A, B et C, confetti, on l'a compris, Sylvain Sipel, elle était censée être provisoire à l'origine.
Elle était censée être provisoire. Nulle part dans les accords d'Oslo, ça me semble essentiel de le rappeler, il n'est dit qu'à la fin du processus de négociation, il y aura un État palestinien. C'est pas écrit, mais c'est un sous-entendu évident. Et donc, les négociations commencent, puis les travaillistes perdent le pouvoir une première fois. Netanyahou arrive une première fois au pouvoir, on est en 98, donc on est déjà 5 ans après les accords d'Oslo. Et quand il arrive, il y a une négociation avec Arafat et avec Clinton. Et les Palestiniens espèrent qu'ils vont passer de 13% de territoire qu'ils contrôlent au départ d'Oslo, de la Cisjordanie et de Gaza. Ils vont passer au moins à 30 ou 35%. Et Netanyahou propose 1% de plus, passer de 13 à 14. Donc Arafat dira de manière un peu amère, pourquoi 1%, pourquoi pas 0,1%. Et donc, depuis lors, en réalité, c'est un grignotage permanent qui a lieu dans cette zone-là. D'une part, les Israéliens ont quitté militairement Gaza et en ont fait une forme de prison à ciel ouvert où la vie est absolument impossible, où ils gèrent absolument tout. Un enfant ne peut pas naître à Gaza sans que les autorités israéliennes en soient informées officiellement, donc le contrôle de la population continue. Et dans la Cisjordanie, le grignotage des terres, des nappes phréatiques, des routes est absolument continu. Et aujourd'hui, ça a totalement modifié le paysage de la Cisjordanie.
On l'évoquera avec ces zones militaires qui entourent les colonies. Et quand ça n'est pas une zone militaire, c'est une zone naturelle où on protège la nature. Les Palestiniens n'ont pas accès.
Il y a des dizaines de biais juridiques.
Alors, de fait, le sentiment des Palestiniens aujourd'hui est de vivre sous occupation. Et de connaître une situation qui n'a peut-être jamais été aussi difficile, vous allez me confirmer ou infirmer. En tout cas, il y a d'un côté le durcissement de la politique israélienne avec un gouvernement plus à droite que jamais. D'un autre côté, les divisions palestiniennes entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, les différents conflits dans le monde arabe qui détournent l'attention. La question israélo-palestinienne n'est pas la priorité du moment alors que l'Europe est elle-même occupée ailleurs. Le terrorisme, la crise économique, le Brexit, la relation avec la Russie et le changement climatique. L'Union européenne n'en est pas moins considérée comme le partenaire principal et le plus important donateur pour les Palestiniens, alors que l'administration américaine est, elle, alignée sur le gouvernement israélien. Et si l'Union européenne se trouve dans l'incapacité à jouer un rôle politique, elle est au moins engagée économiquement. Je vous propose d'entendre Alexandra Witzer, qui est chef de la coopération auprès de la délégation de l'Union européenne à Jérusalem. Alexandra Witzer.
En fait, j'aimerais bien aussi donner un peu d'informations sur le travail conjoint qu'on est en train de faire l'Union européenne, les États membres, aussi la Norvège et la Suède, ici à Jérusalem. Ici, on est dans un contexte dont on travaille sur un pays qui est relativement développé. Et la raison de l'engagement européen, pas seulement de l'Union européenne, mais des États membres, c'est vraiment qu'avec les fonds de coopération, on est ici pour soutenir la vision politique des soutiens aux deux États, avec la création d'un État palestinien indépendant, démocratique, viable, vivant à côté en sécurité et en paix avec l'État d'Israël. Ça, c'est la vision de l'Europe. Et notre coopération ici, c'est vraiment à l'objectif de contribuer à cette vision et de contribuer à la création des institutions de l'État palestinien et aussi de contribuer à la viabilité de l'État. Dans ce qui concerne l'approche de la zone C, notre approche se base sur les conclusions du Conseil 2012 qui souligne que le développement économique et social dans la zone C est d'importance vitale ou critique pour la viabilité d'une future État palestinienne. Tandis que la zone C, c'est la partie plus grande des territoires de la Palestine. C'est pour ça que, comme État membre et comme Européenne, on est très engagé dans la zone C. On soutient les activités de planification des villages et on soutient aussi les infrastructures de base dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau.
Alors, on peut juste rappeler pour nos éditeurs que la zone C est une zone contrôlée par Israël, qui, pour ce qui a trait aux villages palestiniens, ne remplit pas les obligations qui sont remplies ailleurs. Et c'est là que l'Union européenne trouve toute sa place.
Oui, en fait, notre objectif, c'est de soutenir la présence palestinienne dans la zone C et de soutenir le développement économique et social dans la zone C. On sait, dans le niveau politique, pour l'Union européenne, est une part intégrale d'un futur État de Palestine, dont les accords d'Oslo devraient être progressivement donnés à la Palestine, dont un période transitoire. Et ça, ce n'est pas achevé. Et on a une situation dont les présences palestiniennes inarrêtées, c'est pas vraiment assuré, mais c'est en danger. Alors, sans la zone C, il n'y a pas vraiment la possibilité de parler avec un État viable, et c'est pour ça que l'Union européenne et les États membres sont engagés pour soutenir la présence palestinienne, pour assurer services essentiels et pour aider leur développement économique et social.
Alors, avant de parler de la question des deux États qu'évoquait à l'instant Alessandra Witzer, qui est donc chef de coopération auprès de la délégation de l'Union européenne, on peut préciser, Sylvain Sipel, que l'Union européenne dépense un peu plus de 300 millions d'euros par an au soutien à la Palestine. 45% de cette somme va au versement des salaires des dirigeants de l'autorité palestinienne et des fonctionnaires. 45% aux services publics, adduction d'eau, écoles, hôpitaux, formation de la police et 10% à des projets culturels et humanitaire.
En fait, c'est plus proche de 600 millions, c'est-à-dire 300 millions, un peu plus de 300 millions, c'est ce que verse l'Union européenne. Ça ne tient pas compte de ce que versent les États européens. Si on fait le cumul de tous, ça dépasse un peu 600 millions.
Et l'Union européenne verse aussi 110 millions de dollars annuels à l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, dont les États-Unis se sont, eux, récemment retirés. Et l'Union européenne est également présente à travers ECHO, qui est le bras armé humanitaire de l'Union européenne.
Absolument.
Avec des besoins qui sont de moins en moins satisfaits, à peine 30% des 540 millions de dollars évalués comme nécessaires. L'aide aux Palestiniens n'est plus si évidente en provenance des pays de la péninsule arabique, moins d'argent disponible en provenance d'Arabie Saoudite, rivalité avec le Qatar. Tout cela place la question des Palestiniens dans une situation particulièrement étroite aujourd'hui, sur le plan financier.
Sur le plan financier, c'est une évidence. Sur le plan politique, ça l'est plus encore, si vous voulez. Sur le plan financier est la conséquence de ce qui se passe sur le plan politique. Tout simplement, la question palestinienne est passée, disons, du premier plan au quatrième plan, sur le plan des enjeux régionaux. C'est dû aux révolutions arabes, c'est dû essentiellement à la guerre en Syrie. La guerre en Syrie a totalement arasé et divisé également le monde arabe. Mais la guerre en Syrie a transformé la question palestinienne en une question mineure. En tout cas, dans un échéancier court, si vous voulez. À court terme, la question palestinienne n'est plus à l'ordre du jour dans les grandes chancelleries, c'est une évidence. Donc ça a des conséquences importantes. Ça n'a pas tellement touché les budgets, que ce soit les budgets américains qui sont versés aux Palestiniens, quasi exclusivement sur l'organisation des services sécuritaires. C'est ce que font les Américains, ils donnent très peu d'aide humanitaire ou autre, et ils ont arrêté le financement, comme vous avez dit, de l'UNRWA, de l'agence qui s'occupe des réfugiés, et les réfugiés c'est une part importante de la population palestinienne. Les Européens n'ont pas baissé leur contribution, mais en revanche, dans cette période-là, les Israéliens se sont sentis... le fait que la question palestinienne soit moins à l'ordre du jour, leur a donné plus de capacité de ne pas tenir compte des aides européennes, et en particulier, ils se permettent de détruire des constructions qui sont financées par l'Europe. Moi, j'étais sur place, j'en ai vu. J'ai vu une école dans un village bédouin qui a été entièrement détruite, à deux reprises, reconstruite puis redétruite par les forces israéliennes. Et puis, ce que je pense qu'il faut dire aussi, c'est que la pression israélienne sur les dernières années a été beaucoup plus forte, là encore, dans ce contexte général, parce qu'ils se sont sentis quand même moins scrutés, moins observés. Quand on parle de cette zone C, ça me semble le lieu où vraiment, alors il faut faire attention à ce qu'on dit et aux mots qu'on utilise, mais ce qu'on peut appeler une forme, parce que par exemple la journaliste Amira Haas qui écrit quotidiennement dans Haaretz, elle parle très clairement d'épuration ethnique. Je vous prends un exemple, il y a une ville au sud de Hébron qui s'appelle Yatta, elle est en pleine zone C, mais je pense qu'elle est zone B. Il y a 10 ans, c'était une ville qui avait 6-7 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 65 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique générale d'expulsion pour gagner des terres de la part des Israéliens. Et quand les gens ne peuvent plus vivre de leurs terres, eh ben, ils s'accumulent dans les zones urbaines. Et donc, on crée de grands ghettos urbains qu'on appelle autonomes si c'est zone A ou semi-autonomes si c'est zone B. Mais l'essentiel pour les Israéliens est acquis, c'est-à-dire que les terres sont libérées. Et ces terres deviennent terres d'État, enfin, etc. Il y a diverses dénominations, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais l'essentiel, c'est de prendre les terres. Et ça, ghettoiser les gens dans des zones urbaines resserrées, ça, c'est l'objectif évident de la politique israélienne dans les territoires.
Ghettoiser, on retrouvera ce terme dans une interview postérieure. Sylvain Sipel, que fait l'Union européenne dans ce conflit ? L'Union européenne, elle est pas mal critiquée pour son soutien aux Palestiniens. D'aucuns y voient un soutien au terrorisme. Et aujourd'hui, l'unité de l'Union européenne dans son action envers les Palestiniens est difficile à maintenir, notamment en raison de la position d'un certain nombre de pays d'Europe centrale ou orientale. Il s'agit, bien sûr, vous l'avez dit, d'éviter que les Palestiniens ne s'en aillent tous, car étranglé économiquement. Mais la question des deux États, vaste question aujourd'hui, il semble bien qu'il n'y ait plus que les institutions pour croire à la solution à deux États. Une récente enquête de l'Université hébraïque de Jérusalem fait état d'une adhésion d'à peine plus de 40% de la part des Palestiniens à la solution à deux États, chiffre légèrement supérieur côté israélien, mais il atteint tout juste les 50%. L'alternative,
Si vous la connaissez, soyez gentil de me prévenir. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des gens des deux côtés qui parlent d'un seul État. Le problème, c'est qu'ils disent pas la même chose. Les gens qui envisagent un État du côté palestinien, c'est un État où juifs et arabes vivent ensemble, ont des droits communs, et qu'on appellerait, alors je ne sais comme on veut, du côté israélien, ceux qui parlent d'un seul État. Par exemple, le député Smotrich, d'extrême droite, lui, il parle ouvertement d'un seul État. Il parle aussi d'expulsion. Mais c'est un État juif et uniquement juif, dans lequel il y a d'un côté des citoyens et de l'autre des gens qui n'ont pas de droits, en tout cas pas de droits civiques, et que l'on pousse à partir parce qu'ils ne sont pas chez eux. Donc un seul État, dans cette configuration, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a des gens qui, de part et d'autre, y pensent, mais ils n'ont pas la même vision de l'État qu'il faut construire. Et sans parler des Palestiniens, évidemment, qui, quand ils vous disent un État, vous disent ça sera un État de Palestine, et les Juifs, si, on sera assez gentils pour les laisser vivre s'ils veulent rester avec nous, mais s'ils veulent partir, ils welcome, hein, ils peuvent aussi partir. Donc, en même temps, la réalité, c'est qu'effectivement, sur le terrain, la possibilité pratique de faire un seul État est de moins en moins tangible. Vous avez aujourd'hui une société totalement décomposée en Cisjordanie. Vous avez une séparation entre la Cisjordanie et Gaza qui est par ailleurs entretenue par les autorités palestiniennes et qui rend cette option aujourd'hui, il n'y a pas de représentation palestinienne. Donc, à échéance X, on a beaucoup de mal à voir comment on pourrait la réaliser. Moi, j'ai l'habitude de dire que beaucoup de gens pensent qu'elle est morte et qu'elle serait impossible. Elle est rendue impossible. Moi, je pense que le problème est politique et pas pratique. Pratiquement, ce serait pas compliqué de faire deux États. Si un jour, un premier ministre israélien disait aux colons, voilà, c'est simple, dans 6 mois, il ne restera plus un seul soldat ni un seul policier dans les territoires occupés, eh bien, je peux vous assurer qu'il ne resterait pas non plus un seul colon. C'est-à-dire que les colons ne peuvent rester que sous la protection de l'État d'Israël et sous la protection des forces armées de l'État d'Israël. Si un premier ministre disait une chose pareille, il ne resterait pas un seul colon. Le problème, c'est qu'il faut des conditions politiques pour qu'une chose pareille arrive. Et les seules conditions politiques qu'on peut voir à échéance, eh bien, c'est une pression internationale. Aucun gouvernement israélien ne fera jamais ça. Il n'y a pas eu aucun de Gaulle israélien n'a émergé. L'idée est celle de la conquête et à terme, un terme non explicite d'un État juif sur tout le territoire.
Alors, on entend souvent les Palestiniens comparer leur situation à celle des Indiens en Amérique du Nord, et le régime d'apartheid, il est déjà là, Sylvain Sipel. Le 10 janvier dernier, une nouvelle route de l'apartheid était inaugurée en Cisjordanie, au nord-est de Jérusalem, un tronçon de 5 kilomètres qui vise à fluidifier les déplacements des habitants des colonies voisines. Sur cette portion de 5 kilomètres, on trouve 2 routes. Attenantes, séparées sur toute leur longueur par un mur de béton surmonté d'une clôture. La route réservée aux Israéliens permet de se rendre sans entrave à Jérusalem. Celle autorisée aux Palestiniens est brusquement fermée, interdisant l'accès à Jérusalem. Un commentaire, on a 1 minute 30 pour terminer cette première partie d'émission. Sylvain Sipel.
J'avais interrogé un ancien conseiller juridique d'Yitzhak Rabin, qui aujourd'hui est un militant actif de Breaking the Silence. C'est un vieux monsieur. Et à un moment, je lui avais dit, alors ce que vous craignez, c'est que ça devienne une situation d'apartheid. Je vous rappelle que c'était en 2002. Il m'avait répondu que ça devienne, mais qu'est-ce que c'est déjà? Donc, c'est une vieille histoire. Quand vous faites des routes séparées, la route séparée dont on parle aujourd'hui, bien sûr, tout le monde se scandalise, mais les routes séparées, elles existent depuis 15 ans. Un droit différent pour les citoyens juifs et pour les citoyens palestiniens sur le même territoire. C'est-à-dire, le droit est différent pour les colons et pour les Palestiniens. Les colons ne sont pas soumis au droit militaire. Les Palestiniens sont soumis au militaire. Enfin, on peut allonger cette liste quand on n'a pas le même litrage d'eau par paysan, qu'on soit juif ou qu'on ne le soit pas, etc., etc. La liste est très très longue. Ben, ça s'appelle, alors, si vous voulez pas dire apartheid, dites ségrégation. Mais moi, je connais pas trop la différence entre une ségrégation raciale et un apartheid, si vous voulez. Donc, le mot apartheid ne me gêne pas. C'est une situation de ségrégation. Indubitable. Dans cette situation, l'attitude de l'Europe est compliquée. Elle est très compliquée. Moi, j'ai fait le même voyage que vous évoquez tout à l'heure, mais quelques mois auparavant, j'étais dans une délégation de journalistes européens. Et je me rappelle avoir posé la question, souvent, aux Européens que je rencontrais. Et ils reconnaissaient que leur tâche était plus que difficile. Quand l'Europe finance des choses qui sont détruites par Israël le lendemain, c'est compliqué.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Sylvain Sipel, on vous retrouve après le journal.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous vous retrouvons, Sylvain Sipel. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé des questions internationales, ancien membre de la rédaction en chef du Monde, collaborateur d'Orient 21 et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse, paru aux éditions La Découverte. Je le disais en introduction de l'émission, en novembre dernier, 7 journalistes issus de 6 pays de l'Union européenne étaient invités par la délégation de l'Union européenne en Palestine afin d'y constater divers aspects des soutiens apportés à l'autorité palestinienne. Vous avez vous-même fait ce voyage, Sylvain Sipel, il y a quelques mois. On l'évoquait dans la première partie de l'émission, différence de traitement, manque de sécurité. Nous avons ressenti tout cela à l'occasion de la visite d'une école de filles à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Une école en zone dite vulnérable, car située près d'un checkpoint, ce qui se traduit pour les élèves par un stress quotidien. Une école dont le salaire des professeurs est justement financé par l'Union européenne. Je vous propose d'entendre le témoignage de Somaya Zatari, professeur principal.
Our girls come from three places.
Certaines de nos élèves doivent passer à travers des checkpoints et sont confrontées aux soldats israéliens. Quand la violence monte, qu'il y a des bombes lacrymogènes, des cris, elles sont effrayées et parfois ne veulent plus aller à l'école. Quand il se passe quelque chose sur le chemin de l'école, ça les stresse. Et le lendemain, elles ne veulent plus y aller. Le résultat, c'est que souvent, elles restent 2 ou 3 jours à la maison, puis elles reviennent avec leurs parents qui nous expliquent les raisons pour lesquelles elles ne sont pas venues pendant plusieurs jours. Alors on s'assied avec les élèves et on les fait raconter. Nous parlons de ce qui s'est passé durant leur trajet, de l'école, nous en discutons. Elles sont très stressées. Parfois, les soldats israéliens leur disent des choses difficiles à entendre pour elles. Ils leur parlent en arabe. Les élèves ont honte de ce qu'elles entendent. Il n'y a pas toujours que des mots, il y a aussi des gaz lacrymogènes, des bombes assourdissantes. Les soldats israéliens ont pour seul objectif que les jeunes filles n'aillent pas à l'école, qu'elles n'acquièrent pas l'éducation dont elles ont besoin pour la vie. Donc, nous perdons un certain nombre de jeunes filles. Cette année, nous en avons perdu 6 qui ne viennent plus à l'école. Elles restent à la maison, elles ne veulent plus venir, elles ont peur. Pour certaines, les plus chanceuses, leurs parents font appel à un chauffeur spécial qui les emmène le matin et vient les rechercher le soir. Mais ça représente beaucoup d'argent et ils ne peuvent pas faire cela tous les jours d'école.
Sylvain Sipel, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, donc ce témoignage de Somaya Zatari, professeur principal d'une école à Hébron.
J'ai été plusieurs fois à Hébron. À chaque fois que j'y ai été, j'ai été plus que bouleversé. Vous savez, les militants israéliens, ce qu'on appelle les briseurs de silence, hein, breaking the silence, qui sont tous d'anciens soldats qui témoignent, la première chose qu'ils font quand ils rencontrent un interlocuteur, c'est de l'amener à Hébron. Si vous voulez, il y a quelque chose de sidérant à Gaza, c'est-à-dire on tire sur des gosses qui manifestent et qui sont désarmés, et on en a déjà tué un certain nombre, plusieurs dizaines, et il y a 25 000 blessés. À Hébron, c'est une forme d'occupation d'une brutalité, et sur le plan éthique, je ne sais pas comment dire, j'essaie de ne pas dire de mots trop forts, mais c'est absolument ordurier. Vous savez, à Hébron, il y a une bande de fous, il y a 800 colons en plein cœur de la vieille ville d'Hébron qui occupent ces lieux, qui ont enfermé les Arabes qui vivaient là dans leur maison, qui prennent leur place. Leurs gosses écrivent des inscriptions sur les maisons arabes, il faut voir ça, en ne cessant d'écrire « les Arabes sont des porcs », précisément avec le mot « porc » qui a un sens pour l'islam. La seule fois où les Israéliens, c'était une histoire qu'avait raconté le journal Haaretz, c'est une fois les soldats israéliens ont effacé un de ces slogans écrits sur les murs, parce que le slogan disait « les Arabes aux chambres à gaz ». Ça devenait trop là. Hein. Alors je parle de la zone d'Hébron qui est autour du caveau des Patriarches. C'est un spectacle absolument sidérant.
Alors, nous y sommes allés, Sylvain Sipel. Vous parlez de l'ONG Breaking the Silence. Je vais vous proposer dans quelques instants l'interview d'un ancien soldat. Juste pour nos auditeurs, Hébron, situé à une 30aine de kilomètres de Jérusalem, l'une des villes les plus importantes de Cisjordanie, où vivent quelques 200 000 Palestiniens et 800 colons. Vous l'avez dit, alors peu de temps avant notre visite, le 12 octobre, une Palestinienne est décédée, atteinte d'une pierre à la tête, alors qu'elle occupait le siège passager de la voiture familiale qui roulait à proximité de la colonie de Re'elim. Je ne sais pas si je prononce correctement, une colonie plutôt classique, établie de façon illégale en 1991. Et les suspects ont été récemment interpellés, des adolescents juifs mineurs étudiant dans un internat religieux de Re'elim. C'est vrai que la tension, elle était toujours palpable plusieurs jours après ce décès, lorsque nous avons visité Hébron. Vous l'avez dit, c'est une ville qui s'est très vite transformée en ville fantôme, puisque des quartiers entiers, des quartiers palestiniens ont été interdit, les magasins sont fermés. C'est vraiment
le souk est fermé, oui.
Une visite absolument impressionnante. Et nous avons visité donc Hébron avec un guide. Quand nous avons visité, une voiture de colons s'est arrêtée à proximité de notre groupe pour nous filmer. Et les militaires israéliens étaient là, collés à nous, afin d'écouter ce que Nadav Ayman, notre guide, nous racontait. Nadav Ayman est aujourd'hui âgé de 32 ans. Il a servi dans les forces de défense israéliennes entre 2005 et 2008 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il fait partie, je l'ai dit, de Breaking the Silence, une ONG israélienne établie en 2004 à Jérusalem-Ouest par des soldats et vétérans des forces de défense israéliennes. La mission déclarée de l'organisation est de briser le silence des soldats qui retournent à la vie civile et qui découvrent le gouffre entre la réalité qu'ils ont vécue dans les territoires occupés et le silence qu'ils rencontrent une fois retournés à la vie civile. On écoute Nadav Ayman.
La situation à Hébron est unique. Elle est la seule ville de Cisjordanie à avoir une colonie juive installée en plein cœur de la ville. Et la particularité est que la circulation est absolument interdite aux Palestiniens depuis le début de la deuxième intifada pour protéger les colons. Ça a commencé le jour où des colons ont assassiné des Palestiniens à l'intérieur de la tombe des patriarches, à l'intérieur de la mosquée. Et ça n'a été fait que pour des raisons de sécurité, pour protéger les colons. C'est aussi pour des raisons soi-disant de sécurité que les magasins ont été fermés. La circulation a également été interdite. C'est toujours pour des raisons de sécurité que la plus grande ville de Cisjordanie a été transformée en ville fantôme. L'installation des colons a signifié un arrêt total de la vie des Palestiniens. Les soldats qui sont envoyés ici sont chargés de protéger les colons. Peu importe que ces soldats soient de droite ou de gauche, ils sont chargés de protéger les colons. Et les colons à Hébron sont très 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 violents. Vous avez vous-même pu voir la façon dont les soldats se sont comportés lors de notre visite. Ils ont vraiment cherché à nous intimider. Ils vous considèrent comme l'ennemi parce que vous venez constater et parler de ce qui se passe ici. C'est comme cela que notre société voit les choses. Si vous parlez dans le pays ou à l'extérieur de l'occupation, et particulièrement d'Hébron, vous portez préjudice à la sécurité d'Israël. C'est comme ça que vous, les journalistes, ou nous, les activistes des droits de l'homme, sommes considérés comme des traîtres ou des ennemis d'Israël.
Combien de colons à Hébron, combien de Palestiniens et sur quelle base les colons s'installent-ils?
Nous avons 200 000 Palestiniens dans la ville d'Hébron et 850 colons. Pour les garder, il y a 650 soldats. Et les week-ends, le nombre de soldats monte à 900. 900 soldats pour garder 850 colons. Les colons sont là à cause de l'importance religieuse du tombeau des patriarches, ce que personne ne conteste. C'est un lieu très saint pour la religion juive. Mais il y a de quoi se poser des questions sur la raison même de ces colonies en pleine ville palestinienne. Les colons continuent d'arriver. On envoie toujours plus de soldats et personne ne parle des répercussions de tout cela.
Vous êtes vous-même un ancien soldat. Quel a été l'élément déclencheur de votre prise de conscience et de votre changement d'attitude?
Le simple fait d'être soldat en Cisjordanie. J'ai grandi en Israël avec l'idée que je devais protéger Israël. Quand j'avais 18 ans, je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger mes concitoyens. Puis vous finissez l'école de formation et vous devenez un soldat combattant. Vous êtes envoyé en Cisjordanie et vous découvrez que vous êtes un officier de police qui se charge de faire appliquer la loi militaire aux Palestiniens. Vous ne protégez pas Israël, vous protégez les colonies à Hébron ou ailleurs. Et pour moi, ça a été un choc. Soudainement, j'ai compris ce que je faisais et tout à coup, je vois des millions de Palestiniens me regarder avec un sentiment de haine parce que je suis un soldat occupant. Au début, je pensais que c'était parce que je suis juif. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était parce que j'occupais leur terre. Le processus a été lent. J'ai mis du temps à comprendre que ce qui se passe ici n'est pas bon pour Israël. Tout ceci fait du mal tant à la société israélienne qu'à la société palestinienne.
De quoi les colons vivent-ils?
Ils peuvent circuler et aller partout, rapidement et facilement. Beaucoup d'entre eux travaillent pour l'État d'Israël, dans l'éducation, les services de santé, dans différents bureaux du gouvernement que nous avons ici en Cisjordanie. De nombreuses organisations non gouvernementales de droite reçoivent beaucoup d'argent des communautés juives du monde entier. Immensément de choses en Cisjordanie sont subventionnées par le gouvernement israélien. Les bus, par exemple. Nous disons que nous subventionnons les bus. pour éviter que les colons ne se fassent kidnapper sur les routes. Donc tous les bus sont très bon marché, bien meilleur marché qu'ailleurs, comme à Tel Aviv par exemple. Le système scolaire, tout est subventionné, donc économiquement c'est plus facile de vivre dans les colonies.
Just last question, la situation continue d'évoluer beaucoup à Hebron, very new one.
Au cours des 6 derniers mois, de nouvelles colonies se sont installées. Récemment, notre gouvernement a donné 22 millions de shekels pour construire 31 nouvelles unités d'habitation. Beaucoup de choses changent à Hébron depuis 2 ans. Le mouvement de colonisation ou d'occupation à Hébron n'est pas un mouvement du passé. C'est un processus qui est en cours. Donc si nous voulons arrêter cela, il y a un moment où on ne pourra plus séparer la colonisation de l'occupation en Cisjordanie. La solution, un État, 2 États, peu importe, mais on arrive à un point où il y a tellement de citoyens juifs que ce sera insoluble.
Sylvain Sipel, commentaire de ce que nous venons d'entendre.
Il y a tellement de choses sur ce qu'on a entendu. D'abord, je vais répéter ce que je disais. Vous savez, si vous voulez convaincre quelqu'un de l'horreur de cette occupation, il faut l'amener à Hébron. Au-delà de ça, il faut tenir compte de ce qui se passe dans la société israélienne. C'est-à-dire, les gens de Breaking the Silence sont des gens qui vivent dans une solitude absolument extraordinaire. Et en même temps, le nombre des Israéliens, souvent des jeunes, qui adhèrent aux ONG, parce qu'il y a énormément d'ONG, soit de dénonciation et d'activisme contre l'occupation, soit d'aide humanitaire aux Palestiniens. Elles sont très nombreuses en Israël. Ils font un travail tout à fait extraordinaire et ils sont clairement, immensément plus nombreux qu'ils n'étaient, disons, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc c'est un paradoxe, parce qu'à la fois ils sont plus nombreux et en même temps, ils se sentent incroyablement dissociés de la société israélienne. Et la raison, c'est que d'abord, il y a tout un corpus juridique qui a été voté au Parlement israélien. Il faut tenir compte d'une chose. La droite dite révisionniste, c'est le nom du parti sioniste historique qui représentait la droite nationaliste. Donc, les révisionnistes sont au pouvoir depuis 40 ans. Pile 40 ans. Sur ces 40 ans, elle a eu le pouvoir pendant 36 ans. Il y a eu 2 fois 2 ans où, voilà, ils ont partagé le pouvoir avec les travaillistes, où il y a eu Rabin dans une courte période qui a fait Oslo. Tout ça a un coût. C'est le parti de la colonisation. C'est le parti du Grand Israël qui est au pouvoir. Toute une société israélienne est éduquée dans une idéologie ethniciste, avec des relents racistes, il faut dire les choses comme elles sont, épouvantables vis-à-vis des Arabes. Et donc, le résultat, c'est justement à Hébron, il y a eu une affaire il y a 1 an avec ce soldat, Elor Azaria, qui commet un meurtre contre un Palestinien qui de toute façon était déjà blessé, qui gît dans son sang, qui a 16 ans, il s'approche de lui et il lui met une balle dans la tête. Pour ce crime, il a fait 8 mois de prison seulement. Et quand il sort, on l'interroge et il dit « s'il faut le refaire, je le referai ». C'est-à-dire qu'il le fait en toute bonne conscience, en conviction qu'il est dans son bon droit. La société israélienne a pas mal évolué quand même sur les 50 dernières années à cause de l'occupation.
Alors, dernier élément de notre reportage, dans la ville de Ramallah, située juste au nord de Jérusalem, nous avons rencontré Mohamed Al-Attar, qui est réalisateur américano-palestinien, dont le dernier film Broken, que l'on peut traduire par cassé, était présenté au festival du film palestinien de Ramallah. Il y est question du mur que construit Israël, déclaré illégal par la Cour de justice internationale. Ce mur est non seulement toujours debout, mais sa construction se poursuit, rendant kafkaïenne bon nombre de situations et impossible la vie des Palestiniens. On écoute Mohamed Al-Attar.
Mon film est là pour dire qu'il est nécessaire que le droit international soit respecté. Parce que si on ne respecte pas le droit international, comme l'un des juges le dit dans mon film, l'alternative, c'est le chaos. Regardez le pitoyable état dans lequel se trouve la région, le Moyen-Orient. Pourquoi ne pas contraindre Israël à respecter le droit international? Pourquoi l'État d'Israël est-il au-dessus des lois? 14 juges de la Cour de justice internationale contre 1 ont décrété que le mur était illégal. C'est la cour la plus importante du monde. Elle a décrété le mur illégal et demandé son démantèlement. Rien ne s'est produit dans ce sens. Et la raison principale pour laquelle rien ne s'est passé, c'est à cause du soutien aveugle des États-Unis. Et il n'y a pas de volonté du côté des Européens de se dresser contre les États-Unis par rapport à Israël. L'Europe a son histoire avec Israël et le peuple juif, et cela vient toujours se mettre au milieu. Mais je crois qu'il est temps pour eux de parler droits de l'homme. Les Européens nous ont appris les droits de l'homme. Pourquoi ne les défendent-ils pas?
Would you be more pessimistic?
Êtes-vous plus pessimiste maintenant que lorsque vous avez produit le mur de fer?
Did the Iron Wall?
No, actually, I was much more optimistic when I did the Iron Wall.
J'étais beaucoup plus optimiste quand j'ai fait le mur de fer. Au moins, à cette époque, je pensais qu'il y avait toujours une chance. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est fini. Il n'y a rien que les Palestiniens puissent faire. Le grand deal du siècle, comme l'évoque le président américain, c'est de liquider la cause palestinienne. Nous n'avons pas d'État. Il y a un morceau à Gaza, un autre en Cisjordanie. Celui de Cisjordanie devrait, au bout du compte, rejoindre la Jordanie, celui de Gaza, l'Égypte, et oublier l'État palestinien. Aujourd'hui, j'ai 56 ans et j'ai passé l'essentiel de ma vie à travailler pour cette question. Si ce n'est pas une déception nationale, c'est en tout cas une déception personnelle. Moi vivant, je ne verrai pas un État palestinien.
Pour les gens qui n'ont pas vu vos films, quelle description pouvez-vous faire de la situation en Cisjordanie pour les Palestiniens et que dire du mur lui-même?
Alors pour les Européens ariens, ce que je vais dire peut être dur, mais si vous y réfléchissez, c'est vrai. Nous sommes devenus les Juifs d'Europe. Nous avons inversé les places. Nous sommes toujours accusés, nous sommes toujours opprimés, nous sommes toujours rabaissés. J'ai un passeport américain et quand je voyage en Europe, à l'aéroport, je suis toujours coincé une heure et demie alors que j'ai un passeport américain, simplement parce que je m'appelle Mohamed et que j'ai le physique que j'ai. Je crois que c'est une situation très dangereuse actuellement parce que les Palestiniens commencent vraiment à ne plus avoir d'espoir. On n'en sortira jamais et nous nous battrons jusqu'à la mort. C'est comme Masada. Si vous connaissez l'histoire de Masada, on va tous finir par se suicider.
Y a-t-il une menace dans votre propos, saying that something might happen?
Il y a toujours une menace. Quand je quitte le pays, je suis quelqu'un qui n'a vraiment peur de rien. Mais pour être honnête avec vous, quand j'arrive au pont israélien, je deviens quelqu'un de lâche. Parce que ce sont eux qui décident si vous avez le droit d'aller dans votre pays ou non. Je n'ai pas de carte d'identité palestinienne, ils n'ont pas voulu me la donner. Vous n'allez pas le croire, mais c'est Israël qui donne leur document d'identité aux Palestiniens. Ce n'est pas l'autorité palestinienne qui le fait. Je voyage avec un passeport américain et j'entre dans mon pays comme vous, avec un visa touristique. Donc à chaque fois, à ce pont, c'est comme un croisement. Soit j'entre dans le pays, soit ils me privent de ma famille pour le reste de ma vie. C'est un sentiment absolument terrible. Si je veux prévoir quelque chose avec ma fille, je dois penser aux Israéliens, à leurs checkpoints. Et maintenant, le mur est devenu une métaphore. Nous vivons dans un ghetto. Et la mentalité de ghetto des Palestiniens, vous commencez à la voir. La mentalité de ghetto, c'est quand vous vous mettez à fermer votre esprit à tout ce qu'il y a autour de vous. Au sein du camp, au sein de la ghettoisation, les Palestiniens luttent absolument pour tout, parce que personne ne leur donne des droits, personne n'écoute. Vous imaginez la frustration, c'est ce que j'appelle la mentalité de ghetto.
Vous venez d'entendre Mohamed Al-Attar, Sylvain Sipel, un commentaire en guise de conclusion.
Écoutez, j'ai écrit, mon livre s'appelait Les Emmurés. Il portait sur les deux, à la fois sur les Israéliens et aussi sur les Palestiniens. L'idée, c'était que les Palestiniens sont emmurés physiquement et les Israéliens sont emmurés mentalement. Depuis l'écriture de ce livre, ce processus-là s'est incroyablement aggravé. Et c'est vrai aussi que de plus en plus, les Palestiniens sont également mentalement emmurés. C'est ce que décrit le réalisateur. C'est un drame, mais je ne sais pas si c'est une lueur d'espoir, mais si je peux le convaincre que tout espoir n'est pas mort, eh bien je pense sincèrement que l'État d'Israël est sur une pente qui va le mener à sa perte. Les lois qui sont adoptées, les liens politiques que Israël tisse avec des régimes qui sont des régimes d'extrême droite, c'est quelque chose d'absolument sidérant. Moi, je rentre d'Israël, j'ai interrogé une trentaine de personnes et beaucoup de gens disent que cet État est en train de se suicider tout seul. Et c'est vrai que s'il reste sur cette pente-là, et on ne voit pas comment il pourrait en sortir aujourd'hui, ben, sa fin sera terrible.
Merci, Sylvain Sipel. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé des questions internationales, ancien membre de la rédaction en chef du Monde, collaborateur d'Orient 21, et donc Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse aux éditions de La Découverte. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À demain.